Est marqué par, eh oui, la politique. Chiz 94.3 accueille les mercredis juste de la politique, autant pour ceux qui ne la comprennent pas que pour les pros et fans finis. Avec moi, Félix Bouffard et mes collaborateurs, on décortique, analyse et réfléchit la politique locale. Allez, venez participer à la discussion. Juste de la politique, en direct les mercredis 14h et en balado sur chiz.ca.
Grande soirée rock sur Saint-Joseph le 26 avril prochain. Plateau triple avec Zouz, Pudge et The Blaze Velluto Collection. Des 20h à l'Impérial Bell, assistez au mat rock post-punk de Zouz, au Psyche Stoner Grunge de Pudge et Blaze Velluto Collection qui allie pop d'époque et folk scintillante. Les billets sont en vente à la billetterie impérialbell.com. Zouz, Fudge, The Blaze Velluto Collection, le 26 avril prochain à l'Impérial Bell.
Sur une distance de 20 verres, la coupe vanille au bout du pied.
C'est la main! Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants!
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
Bienvenue à l'émission À ta santé, l'émission où on parle de santé globale dans une ambiance décontractée et sans prétention. À chaque semaine, notre invité est un expert, un étudiant, un travailleur impliqué à améliorer la santé de ses concitoyens. Certains nous éclairent sur leurs sujets d'intérêt, d'autres nous font part de leurs initiatives à portée sociale. La santé, sans hésitation, ça nous concerne tous. Mais qu'est-ce que la santé globale au juste? La santé globale, ou global health, est un terme employé pour parler d'interconnexion en santé, dans une perspective mondiale. Ce sont les individus, les organisations et les idées qui sont réfléchies pour que nous soyons tous en meilleure santé. Alors, global en termes d'individus et d'influences diverses, on en discute avec un invité à chaque semaine. Notre environnement, notre société, nos relations interpersonnelles, notre alimentation aussi, thème qu'on abordera souvent cette saison. Donc, place à la détente et à la réflexion avec notre invité du jour. Bonne écoute.
Donc, bonjour, bon midi à tous les auditrices et auditeurs. Mon nom est Zoé, je suis membre du comité exécutif de SpotUL. Aujourd'hui, on accueille Dr. Florence Côté. Donc, Dr. Côté est médecin résidente en microbiologie et infectiologie au CHU de Québec. Elle est également la présidente de l'Association des médecins résidents de Québec. Puis, nous avons tout en tête sur quoi elle a travaillé récemment, mais aujourd'hui, on va aborder des sujets différents dans sa spécialité médicale. Donc, merci d'avoir accepté mon invitation à l'entrevue, Florence.
Ça fait plaisir. Bon midi.
Premièrement, en quoi ça consiste la spécialité de microbiologie infectiologie?
OK. Alors, en gros, la spécialité de microbiologie et d'infectiologie, c'est deux spécialités ensemble. Au Québec, on est la seule province qui les regroupe officiellement. Puis, c'est une sur-spécialité de la médecine interne. Donc, on fait 3 ans de médecine interne. Ensuite, on fait l'examen du Collège royal de médecine interne. Puis ensuite, on fait 3 ans de sur-spécialité combinées en microbiologie et en infectiologie. Donc, 2 autres examens. Au final, on finit par avoir une pratique hybride qui combine finalement la microbiologie médicale puis l'infectiologie clinique. Quand on pense aux infectiologues puis qu'on a travaillé un petit peu dans les hôpitaux, je pense que ce à quoi on pense surtout, c'est le travail clinique comme consultant dans les dossiers des patientes, des patients qui sont infectés ou chez qui on soupçonne une infection dans l'hôpital. Les infectiologues, on n'hospitalise pas nous-mêmes nos propres patients. En général, on est consultant, mais partout dans l'hôpital. Fait que ça nous permet de voir des dossiers super intéressants en cardiologie, en hémato, en médecine interne, en chirurgie. Puis, finalement, de rester à jour ou en tout cas de rester intéressé à vraiment plusieurs sujets différents. Puis, on travaille aussi en clinique externe pour suivre des patients avec des infections à plus court terme ou à plus long terme. Par exemple, on peut penser aux patients avec une infection au virus de l'immunodéficience humaine, au VIH. L'autre partie, qui est un petit peu moins connue, mais qui est tout aussi fascinante, ça se déroule un peu partout dans l'hôpital aussi. Fait que c'est une expertise dans les domaines d'abord de prévention et contrôle des infections, donc la PCI. On parle par exemple de ce qu'on a entendu parler beaucoup dans les dernières années, les durées d'isolement quand on a la COVID-19, quand on a d'autres sortes d'infections, les protocoles de dépistage pour des bactéries multirésistantes quand on est admis à l'hôpital. Tout ça, c'est de la PCI, puis c'est chapeauté entre autres par des infectiologues. On travaille aussi en antibiogouvernance, qui est un terme, en gros, qui veut dire de travailler sur des algorithmes, des conseils pour bien utiliser les antibiotiques pour éviter les résistances aux antibiotiques. Puis finalement, il y a aussi tout un travail qui est au laboratoire de microbiologie, comme gestionnaire, comme expert pour appuyer les techniciennes, toute l'équipe du laboratoire, finalement, pour tout ce qui touche l'identification des bactéries, des champignons, des mycobactéries, des virus. Donc, pas les prises de sang sur le bilan du cholestérol, mais du côté des infections. Puis bien, selon les intérêts, finalement, une fois qu'on est microbiologiste infectiologue, on peut compléter ça avec du travail en recherche. On a vu beaucoup de recherches dans les deux dernières années. Puis une implication sur des comités locaux ou nationaux en termes de santé publique, de vaccination, de recommandations pour l'acquisition de certains tests ou d'analyses microbiologiques. En gros, je dirais que c'est ça.
En gros, ouais, ça a l'air d'être un domaine assez complexe puis complet aussi. Puis c'est quoi qui t'a amené justement à choisir cette spécialité-là?
C'est une bonne question. Moi, personnellement, j'ai pas toujours su ce que je voulais faire comme spécialité. Quand je suis rentrée en médecine, je ne savais pas dans quelle spécialité ou dans quel domaine j'allais terminer. J'ai eu beaucoup de coups de cœur, finalement, quand je faisais mes stages à l'externat, mes stages au tronc commun en médecine interne. Puis, ben, je pense que c'est correct de savoir ce qu'on veut faire en rentrant en médecine ou en rentrant à l'externat ou en rentrant à la résidence. Mais c'est aussi correct d'avoir des intérêts variés, de chercher un peu, puis de garder un esprit ouvert. Puis, ben, justement, je pense que mon coup de cœur pour l'infectiologie est venu d'un ensemble de facteurs, comme le fait, comme je le disais tantôt, que vu qu'on continue d'être actif un peu partout dans l'hôpital, sur tous les départements, quand il y a une infection, ben, ça reste que quand on a beaucoup d'intérêts variés, on continue de pouvoir les cultiver. Sans mauvais jeu de mots. puis du point de vue clinique, mais chaque consultation qu'on fait, finalement, ça peut être vu comme une petite enquête. Moi, j'ai dit souvent que je trouvais, puis là, c'est peut-être une référence qui commence à vieillir, mais que l'infectiologie, c'est un peu Dr. House, parce mm-hmm. qu'on cherche toujours le fond de l'affaire puis l'exposition particulière qui va nous donner un indice sur l'infection. Puis après ça, on choisit le meilleur traitement, puis on voit le patient aller mieux assez rapidement quand ça fonctionne en général. Puis ça aussi, c'est quand même pas suffisant. Puis ben, du côté du travail un peu paraclinique, donc les autres implications dont j'ai parlé au laboratoire, en PCI, en ancienne gouvernance, dans les comités, ben, c'est beaucoup de travail, tu sais, dans le fond, de gestion, planification, analyse, communication, travail d'équipe. Puis ben ça, c'est toutes des choses qui me passionnent en dehors même de l'université puis des cours depuis longtemps dans mes années d'implication, notamment dans les associations étudiantes comme à l'AMREC. Puis ben, je suis vraiment contente finalement d'avoir pris cette décision-là, d'avoir réussi à rentrer dans cette spécialité-là puis d'être résidente en infectiologie. J'espère qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir faire la même chose. Et j'espère que le gouvernement va comprendre à la suite de la pandémie qu'on a besoin de plus d'infectiologues parce que dans les dernières années, ils ont coupé beaucoup les postes en résidence en infectiologie. Mais je pense qu'ils se rendent compte à quel point on peut avoir un rôle central, un rôle pivot dans beaucoup de domaines qui touchent l'infectiologie. Fait qu'on travaille là-dessus. Puis j'ose espérer que je vais avoir beaucoup de collègues dans les prochaines années.
Oui, on croise les doigts pour qu'ils augmentent le nombre de places dans ce domaine-là et en santé publique, surtout avec les choses qui se passent récemment. Là, je sais qu'on a dit qu'on allait parler d'autres choses, mais je vais quand même poser une couple de questions COVID parce que justement, c'est dans tes cordes. Parce qu'en fait, les gens qui te connaissent et certains qui te connaissent pas ont remarqué que toi, tu as créé toi-même des infographies pour les tests rapides pour qu'on puisse mieux comprendre les résultats qu'on a parce que savoir si c'est des faux positifs, des faux négatifs, des fois, c'est bien compliqué. Puis moi, je me pose la question aussi, c'est quoi qui cause, comme comment ça fonctionne, puis qu'est-ce qui cause qu'on a un test qu'on dit invalide?
Oui, ben en fait, c'est vrai, j'ai créé des infographies puis des communications pendant la pandémie d'abord, parce que je pense que la pandémie, elle nous a montré l'importance d'une communication scientifique claire, efficace et populaire finalement, parce que pour contrer la désinformation, mais ça prend de l'information. Puis l'information elle-même, elle doit être vérifiée, facile à comprendre, facile à partager, puis répétée sur plusieurs tribunes. Fait que dans les deux dernières années, moi et beaucoup d'autres, on a essayé de partager des explications sur plusieurs concepts. J'ai parlé, moi, beaucoup des vaccins, de la transmission du virus, puis oui, des tests rapides. Puis je pense que lorsqu'on commence à prendre la parole puis que les gens nous voient comme une source d'information fiable, ben là, on se met à recevoir plein de questions. Puis là, ben, ça va orienter les sujets des publications suivantes. Fait que pour la petite histoire, c'est quand les tests rapides sont devenus disponibles à peu près en décembre là, dernier que je me suis mis à recevoir vraiment beaucoup de photos de gens qui faisaient un test rapide puis qui avaient de la misère à l'interpréter puis qui voulaient savoir comment l'interpréter. Parce qu'au lieu d'avoir les deux belles petites lignes parallèles ou une seule lors d'un test négatif, ben là, il y a des gens qui obtenaient deux petites lignes très pâles ou une des deux lignes qui était très pâle ou même des lignes de forme un peu sinusoïdale ou un grand rectangle rouge, des choses vraiment qui n'existaient pas dans le petit papier qu'on reçoit dans la boîte du test rapide. Fait que là-dessus, j'ai fait mes recherches, comme on dit. J'ai regardé les documents de la compagnie, j'ai regardé des forums d'experts. Puis finalement, j'ai fait une petite infographie pour expliquer comment interpréter ce genre de résultats-là. Mais en fait, ça revient, c'est assez simple parce que quand on respecte les consignes pour faire le test, ben Avoir une ligne, qu'elle soit pâle ou foncée, c'est un résultat positif. Avoir deux lignes, en fait, avoir une ligne à la zone test. Puis ça prend une ligne à la zone contrôle pour dire qu'on a bien fait notre test. Fait que ça, rendu là, la réponse, elle est relativement simple. Puis ben après, c'était beaucoup d'explications sur les limites d'un test. J'ai réalisé qu'il y a beaucoup de gens qui... Ben, il y a beaucoup de gens, puis ça, je veux dire, autour de nous, là, on s'en rend compte, il y a beaucoup de gens qui pensent... Je veux dire, mon copain, la semaine dernière, il y a beaucoup de gens qui pensent que quand on fait une prise de sang, ben on a juste à aller faire une prise de sang, puis magiquement, le laboratoire va regarder un petit peu tout, puis nous dire si on a le cancer, puis si on est en bonne santé. Puis alors que, ben on le sait quand on étudie en médecine, mais il faut cibler les tests qu'on demande, puis c'est sur ces tests-là qu'on va avoir un résultat. Puis les tests qui vont être faits sur un échantillon, qu'il soit un écouvillon dans le fond du nez ou une prise de sang, ben sont déterminés par des critères très, très stricts, puis une validation sévère qui va mener à ce qu'un test puisse être commercialisé puis utilisé. Donc, finalement, ce que j'ai découvert, puisque j'essaie de partager, c'est que beaucoup de gens qui obtenaient, par exemple, les lignes sinusoïdales au lieu d'une ligne droite, c'est qu'ils avaient mis plus que 3 gouttes de liquide et que le liquide, en allant dans le test, allait rebondir dans le fond du test puis revenait faire une vague. Alors que ceux qui obtenaient des grands rectangles rouges, ben souvent, c'est parce qu'ils regardaient leur test beaucoup plus longtemps qu'après le 15 minutes prescrit. Fait que ces petites choses-là faisaient que, finalement, l'explication la plus simple, c'est respecter les consignes, lisez-les bien, puis peu importe la raison, quand ça donne un résultat qui n'est pas un des 2 résultats valides établis, ça veut dire que le résultat il n'est pas interprétable et qu'on ne peut pas l'utiliser, puis il faut simplement refaire le test le lendemain, le surlendemain, puis c'est celui-là qu'on va pouvoir interpréter. Okay. C'est comme quand on fait de la pâtisserie dans le fond, pas comme quand on fait un tout-ski, mais quand on fait de la pâtisserie, on le sait, il faut qu'on mette exactement les quantités qui sont prescrites, qu'on cuise à la température prévue, sinon ça donne un peu n'importe quoi.
OK. Wow. Beaucoup plus clair que ce qu'on peut lire des fois. On voit que tu es une experte dans le domaine. Moi, je vais passer à un autre sujet. Pour ceux qui connaissent Florence, on sait que c'est une personne qui a beaucoup de passion, elle l'a dit plus tantôt, tant en médecine qu'en environnement, qu'en cause sociale. Beaucoup de passion. Fait que moi, je voulais parler justement de l'environnement et la santé. On entend beaucoup parler ces temps-ci et depuis plusieurs années, puisque nous, on est jeunes, des changements climatiques, puis de l'impact sur la santé. Moi, quand j'y pense, je pense à l'asthme, les problèmes respiratoires, les choses un peu classiques. Mais récemment, j'ai comme vu que l'OMS rapporte que les changements climatiques sont responsables d'au moins 150 000 décès par année, incluant des maladies infectieuses. Moi, j'étais là, hein? Des maladies infectieuses augmentées par les changements climatiques, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, Florence? Qu'est-ce que ça veut dire que les changements climatiques augmentent les maladies infectieuses?
Bon, il y a deux angles, en fait, avec lesquels aborder cette question-là. Puis je vais commencer par répondre à ta question le plus directement possible. Mm-hmm. En fait, les changements climatiques vont affecter les maladies infectieuses, d'abord, qui sont transmises par des vecteurs, des moustiques, des tiques, des animaux, qui vont finalement être plus présents dans certaines régions où ils ne l'étaient pas auparavant. Fait que si on parle du Québec particulièrement, on peut penser au fait que l'hiver, on a une grande chance, il fait froid, les moustiques meurent. Alors qu'ailleurs dans le monde, ce n'est pas le cas. Puis on sait aussi que l'hiver, il fait froid et donc des animaux du sud ne viennent pas habiter au Québec ou ne venaient pas habiter au Québec jusqu'à récemment. Parce qu'avec le réchauffement climatique, il y a aussi l'augmentation des pluies, des zones inondables, puis on voit une remontée vers le nord de toutes ces sortes d'infections-là qui sont transmises par donc les insectes ou les animaux. Les zones humides par les inondations, l'arrivée plus hâtive du printemps par le réchauffement climatique va faire d'abord qu'il va y avoir plus de moustiques, parce que c'est comme ça qu'ils se reproduisent, c'est au début de l'été, dans les zones humides, ou en fait au début du printemps. Puis il va aussi avoir plus d'autres animaux qu'on dit un peu intermédiaires, mais qui vont aider à propager l'agent infectieux, les cerfs, les lièvres, les renards. Puis même ces animaux-là vont avoir tendance à se rapprocher des grandes villes par manque de nourriture ou par déforestation, quand on enlève leur habitat naturel. Donc en plus, il y a plus de contact avec les humains, alors que normalement, dans l'état normal des choses, on n'est pas censé côtoyer ces animaux-là malades aussi souvent que ça. Fait que d'abord, il y a ça. Puis on peut penser en termes de maladies franches, là, par exemple à la maladie de Lyme ou au virus du Nil qui est transporté par les moustiques. Sinon, il y a aussi les virus respiratoires qu'on connaît bien, comme l'influenza qui donne la grippe, qui vont pouvoir se transmettre plus facilement avec plusieurs facteurs, notamment les réfugiés climatiques, donc les populations des gens qui sont touchés par les catastrophes naturelles écologiques des changements climatiques. On va voir probablement, malheureusement, dans les prochaines années, des des mouvances de population intenses, rapides, avec des gens qui vont vivre de manière rapprochée, même en overpopulation, puis qui vont pouvoir se transmettre plus de virus, comme les virus respiratoires, comme même le virus de la rougeole dans les populations où la vaccination n'a pas atteint des niveaux assez élevés. Puis, ben, tu as parlé de l'asthme tantôt. On sait que la pollution de l'air entraîne plus d'asthme, mais l'asthme entraîne aussi un risque plus élevé d'avoir des complications des virus respiratoires. Donc, ça aussi, c'est interrelié. Puis finalement, ben, je vais finir là-dessus en termes d'exemple, mais il y a certains champignons de l'environnement qui pourraient survivre plus facilement dans la terre lorsqu'on n'aura pas le cycle gel-dégel. Puis ben, ensuite, ces champignons-là de l'environnement, on sait qu'ils peuvent infecter des personnes vulnérables, surtout les immunosupprimés. Donc ça aussi, ça peut se modifier. Puis il y a des champignons qu'on n'a pas au Québec qu'on pourrait se mettre à avoir, ou on a des champignons qu'on a au Québec mais qu'on pourrait se mettre à avoir plus souvent. L'autre manière d'aborder, parce que je disais qu'il y avait deux angles d'aborder la question, l'autre manière d'aborder la question, je pense que c'est aussi de parler du cercle vicieux, de l'impact des maladies infectieuses sur l'environnement et non pas que de l'environnement sur les maladies infectieuses, parce que on peut penser à la pandémie actuelle. On sait que à cause de la pandémie, on a une quantité phénoménale d'équipements de protection individuelle, d'EPI, qui étaient auparavant réutilisable ou lavable et qui s'est rapidement transformé en EPI jetable. C'est constitué majoritairement de plastique puis de choses non recyclables. Bon, on sait aussi que dans beaucoup d'établissements, même des établissements de santé, dans les cafétérias, les ustensiles, les instruments de chirurgie, les autres matériaux à usage unique, on a une montagne de déchets non recyclables qui s'est accumulée pendant la pandémie. Il y a des groupes d'études canadiens, un groupe d'études, entre autres, qui a des patrons au CHUL qui travaillent là-dessus, de ce que j'ai entendu, pour au moins cartographier l'étendue du problème, commencer à trouver des pistes de solutions. Et on n'en est que là, là. On sait juste qu'il y a un problème immense. À l'AMREC, à l'Association des médecins résidents de Québec, on a abordé le sujet l'an dernier au BAP, le Bureau d'audience publique en environnement, qui faisait une consultation sur l'élimination des résidus ultimes. Puis on a aussi, depuis l'an passé, sur notre conseil d'administration, une responsable au développement durable puis à la diversité qui travaille spécifiquement sur ces enjeux-là puis sur un plan d'action pour l'association et pour les établissements de santé de la Ville de Québec. Donc, on travaille un peu là-dessus, mais certainement que il y a des problèmes interreliés là-dedans, là, entre les infections, l'environnement, un cercle vicieux vraiment. Puis je pense qu'on est rendu à essayer de casser ce cycle-là le plus rapidement possible. On a le rapport du GIEC qui est sorti d'ailleurs dans les derniers jours. Ouais. Je pense que l'urgence, elle est réelle.
Oui, par rapport à ça, justement, là, pour les gens qui se posent la question qu'il y a tellement de maladies, c'est laquelle que mettons, faudrait garder l'œil ouvert le plus? C'est laquelle qui a le plus d'expansion au Québec ces temps-ci par rapport à tout ça?
À cause des changements climatiques?
Oui.
Ben, dans le fond, dans les dernières années, je pense que je reprendrai mes deux exemples d'animaux de tout à l'heure, là, la maladie de Lyme puis le virus du Nil. La maladie de Lyme, on en entend de plus en plus parler. C'est une infection qui vient d'une piqûre de tic qui est elle-même infectée. Le cerf de Virginie agit là, dans ce cas-là comme un des autres intermédiaires principaux qui vont contribuer à propager les tiques, propager l'infection. Puis le réchauffement climatique a fait monter la tique en question vers le nord. Puis là, ben, on voit des infections un petit peu partout dans la province, sauf vraiment au nord là, de la province du Québec où ça ne s'est pas encore rendu. C'est une maladie, la maladie de Lyme, qui va donner surtout un rash, une atteinte cutanée en cible, on dit, donc des cercles concentriques autour de la piqûre de la tique. Ça peut aussi causer de la fièvre, même des dommages nerveux, des dommages au cœur si c'est pas traité. Mais pour être infecté, il faut que la tique soit restée accrochée pendant au moins 24 heures pour transmettre l'infection. Donc, faut pas paniquer si on se dit qu'on a déjà marché en forêt et que peut-être qu'on a été piqué sans le savoir. Faut vraiment avoir une tique qui soit restée accrochée. Mais ça reste un enjeu de santé publique qui est pris très au sérieux, puis la santé publique suit ça de près. Puis la bonne nouvelle, c'est que ça se traite une infection aiguë à maladie de Lyme lorsqu'on la diagnostique. Le virus du Nil, lui, ben, il est transmis par certains moustiques, surtout vers la fin de l'été. La complication principale de cette infection-là, chez certaines personnes, rarement, mais gravement, c'est l'encéphalite, c'est une atteinte virale du cerveau, qui peut mener à une hospitalisation ou même à la mort, mais là, on parle vraiment de moins de 1% des personnes infectées, puis on pense même que jusqu'à 80% des personnes infectées sont asymptomatiques, ça veut dire qu'elles n'auront pas de symptômes, de manifestations, ni d'encéphalite, ni d'aucune manifestation de cette infection-là. On recense quelques cas par année depuis 2002. Avant ça, il n'y en avait pas de virus de Nil au Québec, là. Donc vraiment une preuve que c'est en augmentation maintenant qu'on a des moustiques qui peuvent transmettre la maladie. Il n'y a pas de traitement, malheureusement, mais en général, les personnes atteintes vont guérir d'elles-mêmes, sauf dans les cas graves et malheureux.
OK. Puis est-ce qu'il y a une façon que nous, on peut prévenir d'attraper cette
ces maladies-là? Oui et non. Je pense que la réponse simple, c'est ben, d'éviter de se faire piquer. Alors, pour la maladie de Lyme, la meilleure manière, évidemment, de prévenir l'infection, c'est de ne pas se faire piquer par une tique. Donc, dans les régions les plus à risque, il y a des cartes qu'on peut consulter sur le site de la santé publique. Donc, on peut penser au sud de la province, à l'Outaouais. Si on va marcher dans des herbes longues là, et la forêt où des tiques pourraient se cacher, ils nous suggèrent de porter des vêtements longs, de s'assurer après sa marche de ne pas avoir une petite tique accrochée nulle part. Puis, si c'est le cas, si on a une petite tique accrochée quelque part, on peut aller à la pharmacie, leur donner la tique et la faire analyser. Et eux, dans les régions les plus à risque, peuvent même donner d'emblée un antibiotique si vraiment on a une preuve qu'on s'est fait piquer par une tique dans une région particulièrement à risque. Donc, il y a quand même quelque chose à faire et à savoir. Pour le virus du Nil, ben, c'est un petit peu plus difficile, malheureusement, parce que qui ne se fait pas piquer par des moustiques pendant l'été? On suggère évidemment là, les vêtements longs, le chasse moustique, mais bon, c'est un petit peu inévitable à un moment donné de se faire piquer par un moustique. Mais réduire la quantité de piqûres réduit le risque qu'une de ces piqûres transporte l'infection. Je pense que de manière sociétale, la meilleure manière pour éviter toutes ces infections-là, c'est de travailler à réduire au maximum notre production de gaz à effet de serre et freiner le réchauffement climatique. Mais bon.
On a du travail à faire là-dessus. Puis finalement, Florence, ma dernière question et une question ouverte, c'est comment nous, comme citoyens, on peut aider la prévention des maladies infectieuses? Puis aussi, est-ce qu'il y a d'autres chose que tu aimerais nous donner comme message, qu'on devrait savoir, peu importe sur quoi, sur ta spécialité, sur toi, sur qu'est-ce qui s'en vient dans le système de la santé?
grande question. j'aime bien parler de prévention des infections. Alors, allons-y. Là, je pense que globalement, la prévention des infections, ça passe par une compréhension des mécanismes qui transmettent qui permettent la transmission d'une infection. Donc, je pense que le principal présentement en temps pandémique, on le sait, c'est que lorsqu'on est malade, surtout avec quelque chose de contagieux, on devrait s'isoler des personnes vulnérables autour de nous puis prendre des précautions supplémentaires avec tout le monde. Moi, je me dis qu'au-delà de la pandémie et du port du masque dans le contexte de la COVID et du lavage des mains dans le contexte de la COVID, je pense qu'au sortir de la pandémie, on devrait valoriser grandement le port du masque quand on est malade puis qu'on pense qu'on a la grippe ou un rhume, qu'on devrait encourager tout le monde tout le temps à se laver les mains, qu'on devrait garder tous les dispositifs qui ont été installés pour ça, le moins jetable possible, s'il vous plaît, et le moins plastique possible. Mais moi, je serais pas contre de ne jamais avoir de rhume de ma vie parce que les gens autour de moi se protégeraient lorsqu'ils ont un rhume et m'empêcheraient d'avoir un rhume. Je serais vraiment, vraiment heureuse. Alors, je pense que faut garder ces choses en tête puis pas penser que ça va toujours être aussi intense que maintenant, mais penser qu'on a notre rôle à jouer pour prévenir la transmission d'un virus, bien certainement. D'autres infections qui... Oui, pardon?
J'allais ajouter, comme on sait que notamment en Corée du Sud, c'est déjà une pratique qui était déjà fait là, de porter le masque en un rhume. Puis on a vu qu'en début de pandémie, ils ont réagi beaucoup plus rapidement que d'autres pays qui n'ont pas ces méthodes en place. Là. Je ne sais pas actuellement ça ressemble à quoi, mais je sais qu'au début de pandémie, ils ont été beaucoup plus rapides à gérer ça et à instaurer tout ça parce que les gens étaient déjà habitués.
C'est pas faux. Moi, j'avais été au Japon aussi il y a plusieurs années. Mm-hmm. Et c'était aussi déjà le cas. Les masques étaient facilement accessibles et portés de manière, disons, PRN au besoin.
Oui.
Une autre infection majeure, en fait, d'autres infections avec des S majeures dont on peut prévenir la transmission, c'est les ITSS. Et j'en parle parce que je pense qu'avec un public universitaire de notre âge, c'est une des infections vraiment... de l'heure et d'actualité. On a une remontée dans les dernières années, les transmissions du TSS. On peut parler de chlamydia, de gonorrhée, de syphilis, même de VIH. Donc, je pense qu'on a notre rôle à jouer individuellement et aussi auprès de nos proches là, pour transmettre ces informations-là. C'est facile, entre guillemets, mais c'est relativement facile de prévenir la transmission de ces infections-là. On porte un condom, on se fait tester régulièrement, surtout si on a eu des comportements à risque, puis on se fait traiter si on nous trouve une maladie transmise sexuellement, parce qu'en général, ça se traite ou au moins ça se contrôle lorsqu'on parle du VIH. Puis tous ces traitements-là permettent d'éviter la transmission plus loin de l'infection à d'autres personnes. Et plus on les traite comme il faut et rapidement, et plus on évite de transmettre ces infections-là, alors d'avoir même à éviter de les traiter, d'avoir même à les traiter parce qu'on a prévenu la transmission, mais ça permet aussi de diminuer l'émergence de résistance. Parce que si on parle de la gonorrhée, par exemple, il y a une émergence majeure de résistance à certains antibiotiques qui sont utilisés pour la traiter. Puis ça, c'est parce qu'elle se transmet tellement qu'on la traite tellement qu'elle finit par développer des résistances. Donc, la prévention, ça reste la clé. Protégez-vous. Puis pour le reste, je pense qu'il y a une petite responsabilité médicale pour tous les médecins, donc pour ceux qui nous écoutent. Il faut s'assurer, peu importe notre spécialité, je pense, d'être capable d'identifier à la base une infection, d'isoler le patient au besoin si on a un doute, puis de faire des déclarations à la santé publique pour les infections qui le demandent, donc pour les MADO. Puis il faut s'assurer de prescrire, quand on prescrit un antibiotique, le bon antibiotique, pas trop large, pas trop longtemps, mais pas trop court non plus, puis juste lorsque le patient a vraiment besoin d'un antibiotique, donc lorsqu'il a une infection, par exemple, qui n'est pas virale. Puis c'est en expliquant aux patients, aux patientes, pourquoi on fait ça, la réflexion derrière, puis c'est en ayant nous-mêmes ces réflexions-là, je pense qu'on va enrayer la problématique grimpante globale de la résistance aux antibiotiques, qui est probablement une des problématiques de santé / santé publique dont on va entendre parler de plus en plus dans les prochaines années. C'est une autre sorte de pandémie.
Oui, effectivement. Donc, protégez-vous, protégez les autres.
Exactement.
Merci Florence d'avoir accepté ma demande d'entrevue aujourd'hui. C'était très intéressant.
Bien, merci à toi.
En espérant que tu continues tes beaux projets.
Bien, vous aussi, bravo, bravo Spotuel, bravo tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation.
Merci.
Cette émission est une initiative du Comité SPOT de l'Université Laval, affilié à la Clinique SPOT. En début d'émission, on vous parlait de ce qu'était la santé globale. Ça peut être assez complexe. Ce concept vient de plusieurs mouvements étant arrivés au constat que l'enjeu fondamental de notre société contemporaine, c'est l'inégalité entre les vies humaines. Le Comité SPOT a pour mission de sensibiliser et mobiliser la communauté étudiante aux déterminants sociaux de la santé à travers diverses activités. Merci à l'Association médicale canadienne pour son appui financier au projet. Merci pour votre écoute et à la prochaine!
Sur la table, je te regarde comme un animal. J'ai plus trop le tour avec les détours. Je me sens juste ben anormal. Je suis un fou qui s'emballe de toi. Je suis un fou qui se fait mal de moi.
Il contribue tous les jours à faire avancer la recherche scientifique, que ce soit sur le terrain, en laboratoire ou derrière leurs ordinateurs. Leurs découvertes et leurs idées nous aident à mieux comprendre le monde d'aujourd'hui et à anticiper le monde de demain. Ils sont étudiants ou chercheurs et viennent nous parler de leur projet dans Visage des sciences, une émission présentée par Océane Perrault, disponible en balado sur schiz.ca.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
Tous les mardis à 10h, écoutez Pensez-y bien avec Juliette et Catherine sur les ondes de Chiz. Une émission pour les curieux, pour les connaisseurs, pour les débutants. Bref, une émission pour tout le monde. À chaque semaine, on découvre et on décortique un sujet d'actualité ou d'intérêt général avec notre regard de futur journaliste. Pensez-y bien tous les mardis à 10h sur les ondes de Chiz 94.3.
The following program is disturbing. Cash Crowd.
Mardi 20h. Chiz 94.3.
D'écoute!
Les intellectuels déclassés, ce sont trois animateurs sérieux qui commentent l'actualité et qui, après la pause, se transforment en trois qui discutent de la culture web québécoise. La pertinence chevauchant l'absurdité. Une émission 2 en 1, parfaite pour égayer vos soirées les jeudis 19h sur les ondes de Chiz 94.3.